titre de ce 7 mai, deuxième tour de l'élection présidentielle en France ce dimanche. Je rappelle que les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h en Australie. Et en Australie toujours, Scott Morrison, le ministre du Trésor, offre un paiement aux pensionnés du pays pour les aider avec les factures d'électricité et de gaz. Au Nigeria, au moins 80 des 190 lycéennes de Chibok, capturées en avril 2014, ont été libérées hier soir. Deuxième tour donc de l'élection présidentielle en France ce dimanche. Qui va succéder à François Hollande, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Réponse avec Guillaume Nodin pour Radio France Internationale.
Surprenantes et inédites, cette campagne et cette élection l'auront été jusqu'au bout. D'abord parce que ce dimanche soir, l'élu sera forcément le représentant ou la représentante d'un mouvement politique qui n'est jamais entré à l'Élysée. L'un d'entre eux a même été créé il y a à peine un an. Surtout, et c'est le plus surprenant, les deux grands partis de gouvernement de la Ve République, la droite et la gauche traditionnelle, sont d'ores et déjà éliminés. La gauche n'aura jamais pu surmonter le renoncement du président sortant, encore une première, pour cause d'impopularité persistante. Quant à la droite, à laquelle la victoire a longtemps été promise à la suite d'une primaire réussie, elle ne s'est pas remise des révélations sur le candidat qu'elle s'était choisi. De là à dire que le clivage gauche-droite est mort, il y a un pas qu'il serait très imprudent de franchir. Les intéressés ne veulent d'ailleurs pas y croire et ont bien l'intention de le prouver lors des élections législatives de juin, véritable troisième tour qui commencera dès que sera connu le nom de celui ou de celle qui entrera à l'Élysée.
Guillaume Nodin pour RFI. La nouvelle qui a dominé hier, le piratage massif avant le second tour. Le point avec Stéphane Lagarde pour RFI.
Il est encore trop tôt pour dire si des informations compromettantes se trouvent parmi cette masse de données. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a là effectivement une entreprise de déstabilisation. En décidant de mettre en ligne ces photos, ces courriels piratés juste avant la clôture de la campagne, le ou les pirates interdisent en effet toute enquête ou même tout commentaire sur ces données. C'est la règle en France. À la fin de la campagne officielle, les médias n'ont pas le droit de s'exprimer sur les candidats et leurs programmes. Autre élément indiquant que nous sommes là face à une volonté de nuire, parmi ces données diffusées sur le forum anonyme américain 4chan, trouve également de fausses informations, les fameuses fake news qui ont miné la campagne américaine. Sans rentrer dans le contenu, des éléments diffusés sur les réseaux sociaux, comme nous le demande expressément la commission électorale, les experts que nous avons consultés sur le sujet nous ont notamment parlé de captures d'écran grossièrement retouchées s'attaquant aux candidats centristes, des faux grossiers en quelque sorte, preuve là encore que nous sommes au cœur d'une opération visant à perturber l'électorat.
Voilà, Stéphane Lagarde pour RFI. Et puis le vote par procuration est en hausse, comme nous l'explique Alfred Orange pour RFI.
Prenons le cas de la ville de Nantes, dans l'ouest de la France. Les demandes de procuration ont augmenté de 25% par rapport à la précédente élection présidentielle. 17 000 demandes ont été enregistrées cette année contre 13 000 lors du précédent scrutin. Et ce n'est pas un cas isolé, la tendance est générale. Dans la plupart des grandes métropoles comme Paris ou Toulouse, où les chiffres sont connus, il y a eu plus de démarches que lors des deux scrutins présidentiels précédents. Autre indicateur intéressant, le nombre de demandes de procuration entre le premier et le second tour de cette élection est en très forte hausse. Un exemple, à Bordeaux, elles ont doublé, passant de 2500 au premier tour à 5000 à la veille du second tour du scrutin. Face à cet afflux, les mairies qui centralisent les demandes de procuration n'avancent qu'une seule explication, les vacances. Le premier tour de l'élection se trouvait au beau milieu des vacances de Pâques et le lundi 8 mai étant férié en France, le second tour tombe en plein week-end prolongé.
Alfred Orange pour RFI. L'abstention est un des facteurs clés de ce deuxième tour. À nouveau, reportage de Guillaume Nodin pour RFI.
C'est l'une des principales questions liées au scrutin. Parmi les 47 millions d'inscrits sur les listes électorales, ils sont près de 78% à s'être rendus aux urnes au premier tour il y a deux semaines. Mais il n'est pas certain qu'ils soient aussi nombreux cette fois-ci. Les enquêtes d'opinion réalisées entre les deux tours montrent des interrogations et des hésitations des électeurs et l'abstention pourrait augmenter légèrement ce dimanche, alors qu'elle a habituellement plutôt tendance à baisser d'un tour à l'autre. C'est que depuis le premier tour, ceux qui ont choisi des candidats qui ont été éliminés se posent des questions. Certains ne cachent pas leurs doutes et ils sont souvent tentés par l'abstention ou le vote blanc ou nul. Une bonne partie de la campagne du second tour a tourné autour de ces indécis de droite et de gauche pour tenter de les convaincre. Il faut maintenant savoir si l'un des deux candidats à l'Élysée pourrait éventuellement être plus touché par une abstention en hausse que l'autre. Cela pourrait influencer le résultat final ou au moins son ampleur.
Guillaume Nodin pour RFI. Karine Lejeune est la porte-parole de la gendarmerie nationale. Elle parle de la sécurité en place pour le vote de ce deuxième tour.
Le second tour, il sera marqué par deux temps. Et en termes de sécurité, ça représente deux enjeux. Le premier enjeu, c'est finalement un enjeu de sécurité publique, la sécurisation des bureaux de vote. C'était déjà le cas pour le premier tour. Mais là, sur le deuxième tour, nous avons également un enjeu de maintien de l'ordre potentiel, puisque à l'issue à 20h des résultats, il y aura forcément des célébrations, des manifestations, des rassemblements festifs ou moins festifs et des mouvements contestataires qu'on avait vu un petit peu poindre sur le premier tour, mais qui peuvent être beaucoup plus importants sur ce deuxième tour.
Voilà, Karine Lejeune de la Gendarmerie nationale sur RFI. En Australie, vous pourrez suivre les élections en couverture de France 24 sur la télévision SBS en direct à partir de 4h demain, lundi matin. En Australie maintenant, le ministre du Trésor annonce un paiement spécial aux pensionnés du pays pour les aider avec les factures d'électricité et de gaz. Scott Morrison a fait cette annonce, entre autres, sur la chaîne 9 ce matin.
You ensure that you get budget improvement measures through, that the government lives within its means, because that's how you fare to future taxpayers, but it's also how you fare to Australians today, because you need to put downward pressure on cost of living, you need to ensure that you're guaranteeing the essential services they rely on, and you're growing the economy. Now, the principles that will underline all of that are principles of fairness, principles of opportunity, and principles of security. And these are the things that are driving us as we focus on the budget for Tuesday night.
Scott Morrison, le ministre du Trésor. Et puis la Fédération nationale des agriculteurs veut que le gouvernement fédéral s'engage aux questions qui affectent les régions rurales du pays lors de la présentation du budget de mardi prochain, comme la connexion plus rapide à l'Internet et de réparer les routes dangereuses. On écoute Fiona Simpson, présidente de la National Farmers Federation.
It's really important that we keep working to improve not just NBN satellites, but also keep looking at Wi-Fi coverage and how we can actually improve that.
Fiona Simpson, le gouvernement fédéral va augmenter les aides financières aux anciens combattants pour combattre les problèmes de santé mentale, d'alcool et de promouvoir les problèmes, des programmes plutôt pour réduire le taux de suicide. Le financement additionnel de 350 millions de dollars sera mis à côté immédiatement pour aider ces anciens combattants à risque. Écoutez le ministre Dan Tehan.
For PTSD, for anxiety, for depression, for alcoholism, substance abuse, bipolar disorder. Those who leave the military aged between 18 and 28 are more susceptible to suicide than those in the older cohort.
Voilà, c'était le ministre des Anciens Combattants, Dan Tehan. Le rugby en crise en Australie, Damien Keogh, âgé de 55 ans, le chairman des Cronulla Sharks de la Ligue nationale de rugby, a démissionné suite à son arrestation vendredi soir à Sydney pour avoir en sa possession de la cocaïne. Le club regrette cette nouvelle, mais le président du conseil d'administration, Lyle Gorman, demande à ce que Damien Keogh ait une chance pour se défendre.
Obviously a very disappointing day for our club, a very challenging one, and we're trying to work through that with Damien at the moment. Clearly these things aren't great for the club or the game, but let's be clear, these are allegations. Damien deserves the right and is owed the right to go through a process of defending himself, and he'll do that.
Voilà le président du conseil d'administration des Cronulla Sharks. Le secret de ceux et celles qui vieillissent en très bonne santé sera peut-être dévoilé après des recherches par une équipe de l'université de Monash. Tout serait lié au cerveau, selon Dr Sharma Jamadar.
We can study the brain activity using standard MRI, but we can also study many, many extra aspects of brain aging. So changes in the way that the brain uses energy. We could also study early signs of Alzheimer's disease, but we can also study how the brain uses different chemicals as well.
Dr Sharma Jamadar de l'Université de Monash. John Coates a été réélu comme président du comité olympique australien, un poste qu'il détient depuis 1990. Son challenger, Danny Roche, n'a pas eu de succès. Le vote était de 58 à 35 en faveur de John Coates, qui a concédé que la campagne pour le déloger a été une campagne amère.
Yeah, the brand has been damaged, but that's I think that's easily repairable as we focus on these teams that are going away. That's what the Olympic That's what our executive should be focused on.
Voilà, c'était John Coates et puis Danny Rush a présenté ses félicitations à John Coates.
I think in a lot of ways the work starts now. Obviously there's a lot of work to do with the bullying allegations that have gone on. We'd like to see a strong executive board. We'd like to see a smooth transition out of John's presidency.
Danny Roche du comité olympique australien. Au moins 80 des 190 lycéennes de Chibok ont été libérées hier soir au Nigeria selon des sources gouvernementales. Ces jeunes filles avaient été capturées en avril de 2014 par le groupe terroriste Boko Haram. En Pologne, plus de 40 000 personnes dans les rues de Varsovie. Les manifestants ont défilé pour défendre la liberté. Et puis le Hamas a choisi l'ancien Premier ministre Ismaël Haniyeh comme son nouveau chef. Il remplace Khaled Mashal en exil depuis quelque temps. Les combats entre talibans et forces gouvernementales se sont intensifiés depuis quelques jours dans un district clé de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 28 degrés. Adélaïde 18, Melbourne 15, Hobart 11, Canberra 15, Sydney 21, Brisbane 25, Cairns 27, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 26 degrés. Un rappel des grands titres de ce 7 mai, le deuxième tour de l'élection présidentielle en France ce dimanche. Je rappelle que les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h en Australie. En Australie, Scott Morrison, le ministre du Trésor, offre un paiement aux pensionnés du pays pour les aider avec les factures d'électricité et de gaz. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench